VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui. Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 19h30, temps universel du 12 juin 2017 au sommaire. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel remet en cause la haute cour qui devait juger le dernier gouvernement de Blaise Compaoré. La lutte contre l'immigration clandestine au menu d'une réunion entre plusieurs chefs d'État africains et la chancelière allemande en prélude au sommet du G20 prévu le mois prochain à Hambourg. Au Mali, deux journalistes menacés de mort.
Dans les documents, on voit des traces de rencontres entre les agents de la banque et le clergé malien.
Interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. Et puis ici aux États-Unis, une deuxième cour d'appel rejette le décret migratoire du président Trump. Une bataille juridique désormais devant la Cour suprême. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord le journal. L'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda devrait prendre la parole mercredi devant la Cour pénale internationale, près de 2 ans après l'ouverture de son procès. Ntaganda avait plaidé non coupable à l'ouverture de son procès. « Je suis décrit comme le Terminator, comme un célèbre tueur, mais cela n'est pas moi », avait-il affirmé. Bosco Ntaganda, âgé de 43 ans, est accusé de 13 crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Toujours en RDC, deux assassins présumés des deux experts de l'ONU tués en mars dans le Kasaï ont comparu ce lundi devant un tribunal militaire du centre du pays. Lundi dernier, à l'ouverture des débats, la défense avait mis en cause la compétence du tribunal à juger le crime de guerre, tout en estimant que la détention des deux prévenus était irrégulière. Le ministère public a demandé la poursuite du procès et le tribunal a promis de rendre sa décision mercredi. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a tranché sur le recours porté devant lui par les anciens ministres du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré. Ils sont jugés devant la Haute Cour de justice. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la loi qui régit la Haute Cour de justice viole le principe d'égalité devant la justice. Il estime aussi qu'elle est contraire à la Constitution parce qu'elle ne prévoit pas de recours. C'est comme une remise en cause de la Haute Cour de justice elle-même. Les anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré sont jugés pour répression des événements d'octobre 2014 qui ont entraîné la chute du régime. Leur procès est ouvert depuis début avril devant la Haute Cour de justice. Il a été renvoyé à plusieurs reprises avant cette décision du Conseil constitutionnel. Du coup, le procès des ex-ministres de Blaise Compaoré ne pourra pas se poursuivre tant que la loi sur la Haute Cour de justice n'est pas révisée par l'Assemblée nationale. Pour rappel, Blaise Compaoré, depuis sa chute, vit en Côte d'Ivoire et a obtenu la nationalité ivoirienne.
Un militaire français a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an de sursis, pour des attouchements sexuels sur 2 fillettes en 2015, alors qu'il était en mission au Burkina Faso. Sébastien L., 40 ans, a également été condamné à une interdiction d'exercer une activité impliquant des mineurs pendant 5 ans. Le président sénégalais Macky Sall ne veut pas que l'Afrique soit en ventre mou dans la lutte contre le terrorisme. Il a fait cette déclaration à l'issue d'un entretien à Paris avec son homologue français Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a pour sa part salué le rôle majeur que le Sénégal a joué dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Angela Merkel reçoit lundi et mardi à Berlin de nombreux dirigeants africains. L'Allemagne veut saisir l'opportunité de sa présidence du G20 pour attirer les investissements vers l'Afrique, étape nécessaire pour réduire les migrations vers l'Europe. Tatiana Mosso.
Déjà en mars, lors d'un sommet du G20 Finance, les grands argentiers des principales économies du monde avaient convié leurs homologues de Côte d'Ivoire, du Maroc, du Rwanda et de Tunisie à se joindre à eux pour mettre sur pied ce partenariat baptisé « Compact with Africa ». Cette fois-ci, dans une démarche qui se veut ouverte à tous les pays africains, seront également présents à Berlin les dirigeants du Ghana, de l'Éthiopie, du Niger, d'Égypte ou encore du Mali, aux côtés des institutions financières internationales censées apporter un soutien technique aux États pour leurs réformes. Car seul un pays du continent, l'Afrique du Sud, fait partie du G20, et jusqu'à présent, le développement économique africain n'a jamais été à l'agenda. Si la question des dizaines de milliers de migrants vers l'Europe n'est pas évoquée en première ligne, elle est centrale pour l'Allemagne qui a accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile ces dernières années. L'Union européenne ne semble pas en mesure de stopper cet afflux massif des migrants, pour beaucoup subsahariens, qui rejoignent les côtes italiennes depuis la Libye. Pour Angela Merkel, le point central pour espérer endiguer ce flux est de s'attaquer aux causes profondes de la migration en offrant des perspectives aux populations qui essaient de fuir la misère ou les conflits.
Un groupe armé libyen affirme avoir libéré vendredi Saif al-Islam, le fils de l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi, mais il est toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli qui l'avaient condamné en 2015. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le groupe armé, la brigade Abou Bakr al-Sadiq, a affirmé que Saif al-Islam a été libéré en application d'une loi d'amnistie promulguée par les autorités non reconnues basées dans l'Est. Mais le procureur à Tripoli a estimé que la nature des crimes dont a été reconnu coupable Saif al-Islam fait qu'il ne peut pas bénéficier d'une amnistie. Ibrahim Massoud Ali, du bureau du procureur, a indiqué que Saif al-Islam est toujours recherché et doit comparaître devant la cour pour qu'elle lui signifie formellement sa condamnation. Cependant, il n'a pas confirmé s'il a été ou non libéré, comme annoncé par le groupe armé qui le détenait et qui s'oppose aux autorités de Tripoli. Son avocat Karim Khan n'a pas donné de confirmation ni de démenti. Le mystère reste entier. Saif al-Islam a été condamné en juillet 2015 pour son rôle présumé dans la répression du soulèvement contre son père en 2011. En juillet 2016, ses avocats avaient affirmé qu'il a été libéré à la faveur d'une amnistie, mais par la suite, cette information a été démentie.
Au Maroc, le gouvernement a envoyé une délégation à Al-Hoceima, épicentre de la contestation populaire qui secoue cette région dans le nord du pays. Il s'agit de la seconde visite de ce genre en moins d'un mois. La province d'Al-Hoceima est secouée depuis octobre par un mouvement de contestation populaire qui dit lutter contre la marginalisation de la région du Rif.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la Cour d'appel de San Francisco a confirmé la suspension du décret anti-migration de Donald Trump par un tribunal fédéral de Hawaï, infligeant un autre revers au président américain sur cette mesure très controversée, accusée de discrimination à l'égard des musulmans. Le décret a déjà été rejeté par une autre cour d'appel de la zone Est, mais l'administration Trump n'a pas attendu la décision de la Cour de San Francisco pour déposer un dernier recours auprès de la Cour suprême. Le Trésor américain a adopté des sanctions financières contre un responsable de l'organisation État islamique accusé d'avoir participé à la fabrication d'armes chimiques. Atallah Salman al-Jabouri est basé en Irak et un responsable de l'État islamique en charge des unités de production d'engins explosifs improvisés notamment. Ces sanctions empêchent les personnes visées d'effectuer des transactions avec des entités américaines et gèlent leurs éventuels avoirs aux États-Unis. Tension en Russie, le principal opposant Alexei Navalny et des centaines de ses partisans ont été interpellés aujourd'hui alors qu'ils manifestaient lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la corruption des élites. Les détails avec Salwa Jafari.
Alexei Navalny est le trouble fait par excellence. En appelant à une manifestation dans 150 villes de Russie le jour de l'indépendance du pays, il avait comme objectif d'obliger le Kremlin à valider sa candidature à la présidentielle de mars 2018. Il est arrêté à la sortie de son domicile.
Poutine a déjà gouverné le pays pendant des décennies et ne veut pas quitter le pouvoir. Il refuse des élections libres à des véritables candidats à l'opposition.
Outre le leader de l'opposition, plus de 200 personnes ont également été interpellées, surtout à Moscou et Saint-Pétersbourg. Le principal opposant à Poutine avait créé la surprise le 26 mars dernier en faisant descendre dans la rue des dizaines de milliers de personnes, des jeunes pour la plupart, qui n'ont connu que Vladimir Poutine au pouvoir. Cette mobilisation suivait la publication par l'équipe de Navalny d'un film enquête accusant le premier ministre Dmitri Medvedev d'être à la tête d'un empire immobilier financé par des oligarchies.
La crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins du Golfe se joue également sur le plan commercial. Une compagnie aérienne saoudienne a invité des pilotes et d'autres employés de Qatar Airways à la rejoindre. Dans un message sur son compte Twitter, la compagnie saoudienne Flynas veut accueillir en particulier les employés saoudiens travaillant sur des Airbus A320 de Qatar Airways. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est tout de suite dans la Minute Éco présentée ce soir par Jacques Aristide.
Bonnes perspectives économiques pour l'Afrique. L'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, et la Banque africaine de développement prévoient une augmentation du taux de croissance sur le continent, soit 3,4% cette année et 4,3% pour l'an prochain. Ces prévisions ont été présentées en marge du sommet du G20 sur l'Afrique à Berlin. Les investisseurs se ruent sur les titres souverains offerts sur le marché international par la Côte d'Ivoire. L'emprunt obligataire émis en euros et en dollars doit permettre notamment de pallier le manque de devises dû surtout à la chute du prix du cacao. Les souscriptions pour la tranche en euros ont atteint vendredi 4,4 milliards pour 625 millions d'obligations et celles en dollars 4,8 milliards pour 1,25 milliard d'obligations. Les deux levées de fonds sont dotés d'une maturité de 8 et 16 ans pour un taux d'intérêt de 5,12 et 6,25% respectivement. Les agriculteurs et pêcheurs déplacés par les attaques de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria demandent désormais à pouvoir rentrer chez eux et reprendre leur travail, ce qui réduirait les graves pénuries alimentaires. L'agriculture et la pêche ont toujours été les piliers économiques de cette région, mais 8 années de violence et de déplacements massifs ont détruit toutes ces ressources. Aujourd'hui, des millions de personnes souffrent de la faim et certaines zones de l'état du Borno pourraient être en situation de famine.
Dans la page de sport avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par la NBA, le championnat de basket nord-américain. Peut-être le titre cette nuit pour Golden State.
Golden State qui joue le cinquième match à Oakland contre Cleveland cette nuit face aux Cavaliers. Les Warriors qui mènent 3-1 après leur défaite de vendredi dernier. 116-137 contre l'équipe de LeBron James. Mais Stephen Curry et Kevin Durant voudront sans doute tuer le suspense dans leur salle et ne pas laisser les Cavaliers remonter et conserver leur titre.
En football, retour sur les derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2019 en Afrique.
Hier soir, la Tunisie a pris un excellent départ dans les éliminatoires de cette CAN 2019. En battant à Rades, l'Égypte 1-0, la Tunisie prend seule la tête du groupe J. De son côté, le Ghana démarre fort en surclassant l'Éthiopie 5-0 à Kumasi. 3-0, c'est le score qu'a infligé la République centrafricaine au Rwanda. Et les Fauves du Bazoubangui qui partagent la première place du groupe H avec le Sili National de Guinée qui a dominé, et c'est une surprise, 3-2, les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, début difficile pour le Cap-Vert, battu à domicile par l'Ouganda 1-0. Enfin, bonne prestation du Zimbabwe qui a étrié le Liberia 3-0 grâce à un seul homme, Moussona, auteur d'un triplé. Les Algériens, vainqueurs des éperviers du Togo 1-0, partagent la première place du groupe avec le Bénin qui a eu raison de la Gambie sur le même score. Le but signé Stéphane Sessegnon à Cotonou.
Tennis, ça bouge au classement mondial après Roland-Garros.
Une décima en poche à Roland-Garros, Rafael Nadal atteint la deuxième place du classement ATP publié aujourd'hui, faisant du coup reculer de deux rangs le Serbe Novak Djokovic, quatrième, éliminé en quart de finale du tournoi parisien. Nadal a réalisé un véritable exploit sur le court Philippe Chatrier, aucun autre joueur n'ayant atteint un nombre aussi grand de victoires dans un même tournoi du Grand Chelem. La Reconquista est en marche pour le trentenaire après trois années difficiles. Quant à Novak Djokovic, il n'est jamais tombé aussi bas depuis 8 ans dans le classement ATP. Chez les dames, la jeune lettonne Yelena Ostapenko, grâce à sa victoire inattendue samedi en finale du tournoi, a bondi de 35 places. Elle est désormais 12e au classement WTA. Elle entre pour la première fois dans le top 20. La Roumaine Simona Halep, son adversaire malheureuse en finale, n'a pas tout perdu sur la terre ocre de Paris puisqu'elle gagne 2 places. Elle est désormais 2e au classement WTA, reléguant Serena Williams enceinte à la 4e place.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Deux journalistes maliens, auteurs d'une enquête sur des comptes suisses de certains membres de la haute hiérarchie de l'Église malienne, se disent aujourd'hui menacés. Ils avaient fait des révélations sur près de 7 milliards de francs CFA sur la base de documents de banques suisses qui avaient été piratés. Bagassi Koura a joint à Bamako David Dembélé, les journalistes à la Dépêche du Mali. Ils parlent d'abord de leur enquête.
Bon, il s'agit de l'ouverture en Suisse en 2002 de 7 comptes chez HSBC. Un fait signé Conférence épiscopale du Mali. Et les documents auxquels on a eu accès sont issus des SysLeaks. Voilà, et nous travaillons sur ce sujet, cette thématique depuis longtemps. Et donc, dans les documents, on voit des traces de rencontres entre les agents de la banque et le clergé malien. Les agents de la banque qui se sont très souvent déplacés à Bamako pour rencontrer Monseigneur Zerbo et autres. Ces rencontres ont eu lieu en 2005 et en 2005, le portefeuille s'élevait à 12 millions d'euros sur ces comptes-là, ce qui équivaut à 7 milliards de nos francs.
Alors, il s'agit là de grosses sommes. D'où viendrait cet argent alors?
Bon, notre enquête avait pour objectif de savoir la provenance de ces ressources parce que les documents ne nous le disent pas et ils n'ont pas coopéré. À la limite, on nous a mis à la porte, quoi.
Donc c'est depuis la publication de cet article que vous recevez les menaces?
Voilà, depuis la publication, effectivement. Nous avons très souvent des appels via des numéros masqués, vous voyez, et ils nous appellent tous les deux en même temps et à des heures pas possibles, très tardives souvent.
Mais on ne peut pas dire que c'est le clergé qui vous menace?
Ben non, on peut pas l'affirmer de façon très ouverte, mais c'est nous qui avons fait les enquêtes et il y a des indices probants dans ce sens. C'est pas le clergé, mais je dis encore une fois que c'est vraiment des gens qui bénéficient d'une manière ou d'une autre des subventions ou de projets financés par voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, les réactions sont clairement visibles. Hein. C'est clairement visible parce que moi, je suis chrétien. Je sais, voilà, très souvent, je sais qui dit quoi là-dessus. Et dans le milieu, je connais pas mal de gens également.
C'était David Dembélé, journaliste à la Dépêche du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, plus d'un an après l'attaque terroriste meurtrière qui l'avait frappé le 15 janvier 2016, le café-restaurant Cappuccino de Ouagadougou se relève. Plusieurs membres du gouvernement burkinabé sont allés soutenir le promoteur qui avait perdu sa famille dans cet attentat en plein cœur de la capitale. Reportage d'Issa Napon, notre correspondant à Ouagadougou.
Sur l'avenue commune Kourmand, balayée par une fine pluie cette nuit, c'est la résurrection du café restaurant Cappuccino qui se jouait un an après l'attaque terroriste qui y avait fait une trentaine de morts. Une réouverture qui traduit la volonté du promoteur, qui y avait aussi perdu sa famille tombée sous les balles meurtrières des terroristes, de garder la tête haute. Gaëtan Santomina.
Ce qui est important pour moi, c'est de respecter la mémoire de ceux qui sont partis. C'est de ne pas accepter l'inacceptable. C'est d'essayer de laisser un monde meilleur à nos enfants. Ce qui s'est passé au Burkina, c'est passé à Paris, c'est passé à Londres, c'est passé à Bruxelles. Sécurité à 100%. On fait de notre mieux. On essaie de s'entourer de toutes les précautions possibles et inimaginables. Et j'espère que ça ne se reproduira plus jamais nulle part.
Voir ce lieu qui symbolise la douleur de Ouagalais, touché de près ou de loin par le drame, renaître de ses cendres traduit le courage d'un homme, lâche le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement burkinabé, Rémi Dandjeno.
Il y a dans cette réouverture une volonté nette d'un homme de considérer que ce qui s'est passé est certes important et douloureux, mais que vivre et avancer est essentiel. Et le gouvernement dans son entièreté voudrait accompagner M. Gaëtan et dire qu'il y a eu certainement des événements très douloureux qui sont produits ici, mais que la réouverture du Cappuccino est l'expression d'une volonté d'un homme de redonner la vie et surtout la volonté d'un pays qui a envie de continuer à avancer. Donc, dans ces éléments douloureux, il a su tourner la page, il a su se rendre plus fort.
Des clients attablés pour la circonstance n'ont pas voulu manquer cette première. Une présence qui vise à transmettre un message soutiennent différents invités.
Ce qui m'a le plus motivé, c'est le fait de savoir qu'après ce drame-là, le propriétaire des lieux a tenu à rouvrir. Ça m'a tellement marqué parce que je me demande d'où il puise ce courage-là. Et je suis émue de voir que ça va, il a le moral haut. Il a rénové les lieux, le personnel est toujours dynamique comme avant. C'est un homme très courageux et je suis fière de ça, vraiment fière. Il faut qu'on l'encourage et moi je suis prête à l'encourager. J'invite tous les citoyens burkinabés aussi à le faire. On va vivre en mettant Dieu au cœur de tout et puis se dire que tout ira bien.
On a le droit de montrer que la vie ne s'arrête pas là. Il faut qu'on puisse aller de l'avant. Avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré, qu'il accepte de réinvestir, de montrer qu'il faut qu'il arrive à réaliser ses rêves toujours. C'était un devoir vraiment pour nous de venir vraiment le soutenir et montrer qu'on est avec lui.
Je suis très content d'être ici et de voir M. Gaetano qui a le courage, la force et l'enthousiasme pour repartir après le drame qu'il a subi.
Tout un symbole donc que la réouverture du café-restaurant Capo Chino, comme pour dire à tous ceux qui sèment terreur de désolation, non, vous ne changerez pas nos habitudes, non, vous ne nous empêcherez pas de vivre. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive, dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Le Vatican menace des prêtres nigérians de destitution. Le pape François leur donne 30 jours pour qu'ils lui prêtent obéissance en acceptant la nomination d'un évêque du diocèse d'Ayara. Ceux qui ne le feront pas seront de fait déchus de leur office, prévient le Saint-Siège. Morgane Guerrier a joint Albert Mianzoukouta de Radio Vatican à Rome.
C'est un problème un peu récurrent. Il n'est pas spécifiquement africain, mais c'est un problème lorsque, bon, des prêtres qui sont appelés à travailler sous l'autorité d'un évêque, ben, trouvent que celui-ci n'est pas le bon, celui qui correspond à leurs attentes. Et ici, en l'occurrence, il s'agit d'un problème ethnique. Donc, des prêtres d'une autre ethnie s'opposant à ce qu'un Igbo devienne donc évêque de Ayara.
Alors, du coup, si ces prêtres ne se soumettent pas à cette nomination, il risque d'être déchu.
Alors oui, ça par contre c'est une chose assez inhabituelle et qui a frappé les esprits parce que le pape a tapé du poing sur la table et plutôt fermement. La fronde de ces prêtres dure depuis 2012 hein, sous le prédécesseur du pape actuel, le pape Benoît XVI, que l'évêque a été nommé et que ces prêtres donc qui sont appelés à être ses adjoints dans la pastorale lui conteste la légitimité de venir s'installer donc dans ce diocèse. Alors le pape, en recevant une délégation de Ayara la semaine passée, a été très clair. Il a sommé les prêtres, un, de lui faire parvenir une lettre dans laquelle il réaffirme leur obédience et deux, d'accepter ce que le Saint-Père a décidé depuis 2012 et trois, s'ils ne le font pas et cela avant le 9 juillet, eh bien, ils seront effectivement déchus. C'est une décision assez rare.
Que faut-il comprendre? Les prêtres n'ont pas leur mot à dire lorsqu'il s'agit de l'évêque de leur diocèse.
Il y a un mécanisme qui fait que les prêtres ont leur mot à dire dans le choix, puisque c'est eux qui désignent les trois qui peuvent éventuellement faire l'affaire. Mais ici, malgré ce mécanisme, la désignation a été décidée par le pape Benoît XVI et les prêtres continuent de contester. L'affaire est grave. Le pape souligne d'ailleurs le danger qu'il y a à apporter la division et le discrédit au sein de l'Église, d'où donc la nécessité de trancher net par cette mesure spectaculaire.
C'était Albert Mianzoukouta, journaliste à Radio Vatican à Rome.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Hier, les électeurs français se sont rendus aux urnes pour le premier tour des législatives. La République en marche d'Emmanuel Macron est partie pour obtenir une écrasante majorité à l'Assemblée. Le taux d'abstention a été record. Plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter. Eki Abadou a joint à Paris Antoine Jardin. Il est chercheur en sciences politiques et au CNRS. Il explique en quoi l'abstention et les résultats sont liés.
Alors, ces résultats sont en fait des résultats qui combinent l'effet de l'abstention et des préférences des électeurs. Il y a eu un phénomène très important, c'est que les électeurs qui avaient fait le choix d'Emmanuel Macron à la présidentielle sont venus voter pour les candidats de la République En Marche, qui expliquent leur très bonne performance dans les urnes. À l'inverse, les électeurs qui avaient choisi la droite parlementaire, la France Insoumise ou le Front National se sont beaucoup plus fortement démobilisés, et ça explique le recul de ces formations politiques lors de cette élection. L'écart entre ces deux dynamiques donne le poids très important à En Marche aujourd'hui, qui peut espérer avoir plus de 450 députés la semaine prochaine.
Donc, comment vous voyez le deuxième tour ?
Le résultat sera très particulier cette fois-ci, puisque En Marche est relativement limité si on regarde en nombre de voix. Mais ce qui donne toute la puissance à ce courant politique, c'est son positionnement sur le spectre gauche-droite. Comme c'est un courant qui est très central dans le débat politique français, eh bien, il peut l'emporter lorsqu'il est face à la droite, mais aussi lorsqu'il est face à la gauche. Et donc, il a des réserves de voix dans quasiment toutes les configurations, ce qui explique que, malgré son poids de premier tour limité, eh bien, par défaut, il peut agréger énormément d'électeurs autour de ses candidats. Donc, en ayant peu de voix au départ, ils vont avoir énormément de députés à l'arrivée, vraisemblablement.
C'était Antoine Jardin, chercheur en sciences politiques au CNRS.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le Top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your then ride it. So gonna get to clapping. Go pop a phone, pay, pop it for me. Turn around and drop it drop for it. A plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it. For you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mamacita.
That's What I Like, c'est signé Bruno Mars. Et si vous voulez connaître le hit de Roger Moutou, ne ratez pas le RM Show tout à l'heure à 20h GMT. Donc, c'était Musique met fin à cette édition du Monde aujourd'hui, réalisée par Lionel Gaïma, la console Bill Barbeau, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com. Au revoir.
Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what